le rhume du son.
Ah, je continue.
Okay. Un petit rhum dominical
pour découvrir
le murmure du son.
Le rhume du
son. Et les
le dimanche.
Le rhume du son. Une émission mensuelle pour découvrir des créations sonores
et leurs auteurs.
Du silence aussi.
Chuchoté.
Du silence. Le dimanche de 16h30 à 18h.
Les ambiances.
Radio.
Le dimanche de 16h30 à 18h.
Radiophonique.
Le rhume du son. Une émission mensuelle.
Et surtout des micros.
Sur Radio Campus 90.8.
Vive mon dimanche.
Rêvant sa patrie lointaine, l'esclave pleure et maudit sa chaîne. Il voit comme dans un mirage son ciel et sa forêt lointaine. Il chante pour calmer sa peine, sa vieille chanson africaine. Exauce la prière de mon cœur, soutiens mon cœur brisé par la souffrance, mais pas dont le fouet marque la cadence. Je chante et ma chanson plaintive s'exhale de ma pauvre âme captive. Oh, yeah.
Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8 dans l'émission Le Rhume du Son, notre dernière avant l'été. Vous venez d'entendre Pitié, un titre d'Eugène Monnat sorti en 1970, un récit de mémoire autant qu'un chant de résistance. Eugène Monnat, c'est une légende martiniquaise trop peu connue par rapport à l'empreinte qu'il a laissée sur l'île. Il fait partie de ceux qui ont interrogé le rapport de la Martinique à son passé, à ses références africaines et à son devenir dans un monde où les repères s'effacent et les dominations se dissimulent, comme l'écrivent si bien Hamzat Boukhari Yabara et Naïma Yahi dans le livret accompagnant une compilation CD de Rossé intitulée « Par les damnés de la terre, des voix des luttes 1969-1980 ». Si aujourd'hui, dans le rhume du son, nous avions envie particulièrement d'écouter, de faire connaître et de parler d'Eugène Monnat et de la Martinique, c'est que se déroule depuis début juin le mois décolonial à Grenoble. Ce mois, riche en tables rondes, conférences, projections et spectacles vivants, est organisé par 4 associations. Contre-courant, une association étudiante, PEPS, dédiée à l'écologie sociale, MixArt, à la promotion et à la diffusion culturelle, et Survie, une association de lutte contre la France-Afrique. Et il nous a semblé que la musique de Monnat avait quelque chose à nous dire sur la décolonisation de nos imaginaires et celle de nos systèmes politiques et économiques. Pour nous aider à mieux situer le contexte dans lequel s'inscrit la musique de Monnat, qui est celui de la Martinique des années 60-70, marquée entre autres par les revendications d'autonomie, une économie coloniale en crise et une situation sociale tendue. Bref, pour parler de tout cela bien mieux que nous, nous avons invité deux historiens. Richard Château-Degas, qui est doctorant et enseignant en histoire moderne et contemporaine à l'Université des Antilles en Martinique, et Jean-Pierre Sainton, qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université des Antilles en Guadeloupe. Nous les retrouverons tout de suite après l'écoute d'un documentaire, donc signé David Comeyas, Eugène Monnat, Le Nègre debout. On est parti pour 52 minutes d'écoute. À tout à l'heure.
Alors, comment on peut l'entendre ici ? Toi, Christophe Chassol, bonjour.
Bonjour, David.
Tu t'amuses donc à faire chanter les oiseaux que tu enregistres en Martinique sur tes compositions de piano, de rythme, de batterie. Je tiens à rappeler que tu as vraiment cette double culture, antillaise par tes origines et parisienne par ta vie, simplement. Depuis toujours, tu es parisien. Tu pratiques le jazz, les musiques américaines, la musique classique avec une formation au conservatoire, et tu as reçu les traditions des Caraïbes en héritage. Voilà pourquoi tu es peut-être la bonne personne pour nous expliquer ce qu'il y a d'exceptionnel chez Eugène Monnat. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne connaît rien de la culture antillaise pour lui donner envie d'écouter Monnat ?
Je lui dirais, écoute, il y a une petite île qui fait 70 km sur 30, qui a produit des artistes, mais genre déments, qu'on ne connaît pas assez. Il faut te rendre compte que cette île a produit un genre de musique qui s'exportait dans le monde entier. Des cinéastes, des écrivains qui ont changé le cours des choses pour les droits civiques aux États-Unis. Et parmi tous ces artistes fantastiques, il y en a un, c'est un chanteur qui est très respecté. Il s'appelle Eugène Monnat et il est né dans la fin des années 40 et il est mort trop prématurément, mais il a laissé un héritage assez dingue. Et c'est des morceaux longs de trance avec des super mélodies, plus d'énergie, plus de vibrations positives.
Eugène Monnat, le nègre debout.
Une balade musicale de David Comeyas sur une île de pirates, avec des chanteurs légendaires, des flûtes magiques, des grenouilles qui chantent la nuit, et même des zombies ressuscités par des coups de tambour.
Énergie, vibration, positive, Ce morceau d'Eugène Mona a été choisi par le talentueux, célèbre et brillantissime compositeur
Christophe Chacha. Tu peux aussi m'appeler Chassol, Chasuble, je sais pas, j'en ai plein. Chassol, Chacha, Christophe, Chassol.
Pour Chasuble, comme pour la plupart des connaisseurs de musique antillaise, Mona fut l'un des artistes majeurs du siècle dernier. Mona, c'est la fierté et la joie de la Martinique, mais aussi son sang et sa colère.
Ses combats, ses forces physiques, ses fils morales, ses forces, ses manifestations, ses forces.
On dit parfois de Mona qu'il joue une musique racine, tant elle puise sa vigueur dans la terre volcanique de son île et dans l'histoire de son peuple. Ses chansons font partie des trésors du patrimoine culturel antillais, et donc français. Et pourtant, l'ultime paradoxe, c'est qu'on peut se demander qui, en métropole, aujourd'hui, se souvient d'Eugène Mona. Même à la bibliothèque de Fort-de-France, on trouve assez peu d'ouvrages sur la vie du bonhomme. En ligne, il existe un unique documentaire de 50 minutes, sur les traces de Mona, de Nathalie Glaudon. À regarder absolument, car dénicher d'autres documents sur Mona se révèle presque impossible.
Il faut veiller à ce que la flamme, l'arbre, le vent, l'air, la pelée, la lave Mona continue à vivre et à se répandre.
La majorité de ses albums n'ont toujours pas été réédités, on trouve à peine quelques compilations. L'héritage de Mona semble prisonnier du siècle passé, comme s'il n'était jamais arrivé dans cette époque digitale, trop authentique et trop roots pour être numérisé. Évidemment, un tel mystère autour du personnage donne envie d'en savoir plus. Surtout lorsque Chassol explique encore...
En tant que Martiniquais, je suis fier de Mona, ouais. Je sais pas, je suis fier du gars, quoi. Mais de la même façon que je suis fier que de Glissant, de Fanon, etc. Je suis fier qu'il y ait un gars comme ça, sur cette île, qui est plutôt... Voilà, tu sais très bien ce que je dis, hein. J'ai vécu, j'ai grandi avec... on me l'a toujours enfoncé, cette île. On m'a toujours dit que je venais d'un endroit... Tu vois, qu'il n'y avait pas une culture démente, etc. Quoi, voilà, donc, mais tu sais très bien de quoi je parle, de la condescendance coloniale. Quoi. Donc oui, la façon dont les gens en métropole voient ces îles, tu vois, elle est très limitée quand même.
Et Mona va à l'encontre de ces idées-là.
Bah, Mona va à l'encontre, je ne sais pas, en tout cas, il est... un des nombreux artistes qu'on peut mettre en avant pour réparer le fait qu'on ait vécu avec une idée condescendante sur les Antilles. Je sais pas, est-ce que pour toi, un sauvage peut être sophistiqué? Que la sauvagerie peut être sophistiquée? Chez Mona, tu as souvent flûte, donc flûte des bornes, la flûte, la voix. La voix et la flûte qui remplissent la même fonction. Le tambour dont les basses font des tonalités, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'au milieu, il n'y a pas souvent pas grand-chose. Mais on n'en a pas besoin. Je veux dire que Mona me fait penser à la musique indienne, en fait. Disons que l'harmonie est contenue dans peu de choses. On n'a pas besoin de jouer ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire les accords, pour avoir un sentiment du tout. Genre une goutte donne le cosmos, quoi. Et donc oui, non, j'aime sa musique et je la trouve parce que je la trouve sophistiquée, je la trouve très pensée, quoi. Et ça me fait plaisir. Pour les Antilles.
Comment ça, pour les Antilles?
Je sais pas, c'est la traduction de la négritude, quoi. C'est Glissant et Césaire en musique, quoi. Mais je pense que c'est un intellectuel qui réfléchissait beaucoup à ce qu'il faisait, quoi. Il connaissait la créolité, qui savait qu'il voulait la défendre, la transmettre, etc. Donc c'est un intellectuel, ouais. Un chantre de la créolité, quoi, tu vois. Tu sais, ce qui est fou, c'est que je pense que j'ai entendu Mona jeune grâce à mon père. Mais en fait, Mona me fait beaucoup penser à mon père, hein, tu sais, qui s'appelait Eugène aussi. Donc pour moi, c'est mon père en fait, avec la moustache, la barbe et tout. Et Eugène, qui n'est pas son vrai nom d'ailleurs, mais à Mona. Je sais pas, j'ai l'impression que je connais depuis toujours en fait, en vrai. Mon père devait écouter.
Eugène Mona ne fait pas seulement partie de la famille de Chassol. En réalité, il fait aussi un peu partie de la famille de tous les Antillais. On le chante dans les écoles, on danse ses chansons dans les bals, on enseigne ses mélodies au conservatoire de Fort-de-France. Pendant la plus grande partie de sa vie, Eugène Monnat habite la ville du Marigot, au nord de l'île. Débarqué dans cette petite bourgade de pêcheurs à la fin de son adolescence, il travaille d'abord comme apprenti ébéniste sur le chantier de la maison d'un béquet, dans les années 60. Le soir, il fréquente la MJC du Marigot, il s'essaie au théâtre, il joue de la musique. C'est ici que Georges Nilkam, de son vrai nom, devient Eugène Monnat. Il commence à se faire une bonne petite réputation avec son groupe de copains musiciens. Sur la pochette de son premier album, sorti plus tard en 1971, on pourra lire « Eugène Monnat et son groupe du Marigot ». Pour aller au Marigot, il faut prendre la route nationale qui longe la mer, sur la côte est de l'île. Le village du Marigot est niché dans le creux d'une colline, et au bord de la route, il y a un bar avec un nom drôlement choisi pour attirer les clients. Le Ghetto, spécialité créole. Sur la terrasse devant le bar, vraiment à 20 cm de la chaussée de la Nationale, il y a des chaises de toutes les couleurs, des motifs de madras sur les nappes en plastique, et des papis martiniquais qui boivent des rhums presque aussi vieux qu'eux.
Laisse-moi te parler, laisse-moi te dire, laisse-moi t'aimer comme avant. Ma belle, je cherche, c'est pour toi que je parle.
Quand on rentre dans la salle du restaurant, il y a des affiches d'Eugène Monnat partout sur les murs, et cela pour deux raisons. D'abord parce que Monnat a vécu la plus grande partie de sa vie ici, dans la campagne aux alentours. Ensuite, parce que le patron du bar, Félix Fleury, a fait les 400 coups avec Monnat. Ils partagèrent des scènes de concert aux quatre coins du monde, il fut son meilleur ami, et le meneur de son groupe de musiciens à l'époque où Monnat était en pleine gloire. Aujourd'hui, il tient tous les jours le comptoir de son ghetto.
Alors, le ghetto, c'est avec Eugène, on ne trouvait pas, quand on sortait de spectacle, d'endroit pour pouvoir manger, se restaurer. C'était chez lui que tout se passait. À 2-3 heures du matin, on sortait du spectacle, on allait chez lui, il faisait à manger, tout ça. Et ma mère, qui possédait un bar, il m'a dit, écoute Félix, reprends ça, on va essayer de redynamiser le secteur. Et Mona m'a dit, on va appeler ça le ghetto. On ne va pas appeler ça le Majestic ni Georges V. Ça n'a aucun sens.
On boit, on mange, on s'amuse.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est un film de 1983. C'est à l'Élysée Montmartre. Eugène Monnat et sa flûte magique. Et en concert, les 1, 2, 3, 4 juin 83.
Et on voit Monnat quand même avec un regard incroyable.
Oui, incroyable, oui. Ah oui, là, il hypnotisait le public quand il était sur scène comme ça. C'était un monstre. Hein,
c'est pas moi, il y a un problème.
J'ai été ami avec Monnat quand il est arrivé chez nous dans les années 70 jusqu'à sa mort. Monnat et moi, nous sommes connus au sport. Il est monté à Marigot de Fort-de-France en travaillant avec un ébéniste. Et après travail, il venait au football avec nous. Il nous a invités chez lui une paire de fois pour écouter certains morceaux qu'il faisait à la flûte. Bon, il a commencé à mettre des instruments. Et Félix tape sur le bambou, là. Et celui-là tape sur la batterie. Et puis, on s'est pris au jeu. Jusqu'au jour, il nous dit, bon, ben, il y a un spectacle de prévu. Et rendez-vous à 13h au podium. Alors, j'ai dit, 13h au podium. Mais nous ne sommes pas musiciens.
Donc, du coup, c'était le premier concert de Monnat ?
Non, ce n'était pas le premier concert de Monnat. Monnat avait l'habitude de tourner tout seul avec sa flûte dans toutes les fêtes patronales de la Martinique. Mais à ce moment-là, on écoutait essentiellement que la musique sud-américaine. On était bercé par ça.
Donc la Martinique entière danse au rythme de la musique sud-américaine, de la salsa, du compas haïtien aussi. Et lui, il est quand même un peu à contre-courant de son époque, non ?
Cette musique que Monnat nous a initiée, je le faisais par amitié pour lui. Mais il a réussi à nous faire comprendre que c'est notre musique. Et cette musique-là, c'est une musique d'avenir. Nous, on était... pratiquement avec Monnat, des moins que rien. Où est-ce qu'il va avec son tambour et puis sa flûte C'est un peu ça, cette musique de vieux nègre, mais ce n'est pas vieux nègre dans le sens péjoratif, ce sont les vieux d'antan.
Pourquoi nègre debout? On l'appelait nègre debout.
Un nègre debout, en créole, oui. Oui, parce que Mouna avait un frère parlé, il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait.
Il y avait aussi le nègre debout face à la métropole, et en tout cas, l'idée qu'on se faisait des Antillais. Il y a une chanson où il dit « Ils ne veulent pas sentir la sueur, notre sueur. »
Voilà, et cette sueur-là, il te disait que c'était la richesse, cette sueur, c'était la richesse des colons, des béquets. Mais en contrepartie, il n'y avait rien, il n'y avait que dalle.
Moi lever les matins haut, moi qu'à prendre bout de côte là, moi qu'à marrer les mains pour ma haine fait très moins, il garde des animaux moins haut. Les six heures moi fini, moi qu'à prendre grand oua, moi qu'à lever les mains pour ma mande et courage à la dignité.
Lorsque je me lève le matin, je prends le bout de la corde, je la mets autour de mes reins et je regarde mes animaux. À 6 heures, j'ai fini, je prends la grande roue, je lève les yeux au ciel pour demander du courage à la divinité, pour qu'elle puisse me donner un moyen pour que je ne ressente pas la misère. Dieu m'a fait pour ça. Il m'a donné un bois brûlé, il m'a donné beaucoup de sang et je suis bien résistant selon les exploitants. Je ne suis pas beau, on n'est pas fait pour le luxe, ni pour le calice. On a le droit d'être admis d'après ce que je vois. Les paroles de Boisbrié, c'est quand même quelque chose. C'est incroyable.
Pour le moment, là, ça me fait penser aux retraites. Au fait que tu sois usé à un certain âge, quoi, tu vois. La pénibilité, en fait. Et disons, bah, l'exploitation de l'homme par l'homme. Après, voilà, bon, les paroles, je les comprends, mais il pourrait raconter qu'il voit des petites licornes sur la falaise, tu vois, je pense que ça me ferait la même émotion. Bon, peut-être pas quand même, mais a priori, parce que la mélodie, quoi. Juste ce truc, c'est super fat. Moi, c'est comme ça que je vois le classicisme. Il y a tellement peu d'instruments, des choses tellement basiques, mais que lui malaxe avec ce qu'on pourrait appeler une modernité, tu vois, avec un esprit moderne. Mais le mec lisait beaucoup, il était dans la littérature, donc les formes, il avait ce souci. Je pense qu'il devait beaucoup réfléchir aux formes. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un certain classicisme, quoi.
Est-ce que c'est pour ça qu'il marchait pieds nus?
Alors, c'était très spirituel. C'était pas marcher pieds nus pour marcher pieds nus, c'est pour avoir cette vibration de son sol, ne pas se laisser, comment je vais dire, déconnecter de sa nature. Même à Paris, hein, en hiver, on était à l'aise. Il était plus ancré sur sa personnalité. Il te disait que, quel que soit là où je vais, il faut qu'on sache que je suis un Martiniquais. Je suis Martiniquais français, mais je suis Martiniquais. C'est ma région, c'est comme le Corse, comme le Breton. C'était lui. Bon, quand il arrive en quelque part, il disait, ça c'est Mouna. Ah oui, il me dit, avec ces instruments-là, je ne vais pas recourir le monde. Thank you.
Avant de s'installer au Marigot, Eugène Mona grandit dans les années 50 en banlieue de Fort-de-France, dans une case modeste avec ses deux sœurs. Sa mère fait des petits boulots, vend du charbon au marché, travaille un temps à la romerie d'Ilon. Son père joue de l'accordéon dans les bals populaires de la ville. Je décide d'aller traîner dans ce quartier populaire pour voir s'il reste quelque chose de leur maison de famille. En me baladant sur les trottoirs de Morne-Calebasse, j'enregistre un peu au hasard les bruits de la rue, les moteurs de voitures, les discussions des passants et tout ce qui se présente à mon micro. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je passe pas inaperçu ici avec mon énorme casque sur les oreilles, ma perche, mes micros dans les mains. J'ai un peu l'air d'un pingouin qui aurait perdu sa banquise. Parmi les gens qui viennent me demander spontanément ce que je fais ici, il y en a un qui me dit
« On a vécu ensemble un peu, quoi. Quand j'étais gamin, on a vécu un peu ensemble. »
Ici dans ce quartier, Morne-Calebasse.
Ouais, dans ce quartier, Morne-Calebasse.
Je tombe par hasard sur un ami d'enfance de Mona qui habite toujours le quartier. Il m'embarque dans sa voiture et c'est parti pour une visite guidée.
Le nom de cette rue.
Le nom de la rue, c'est la rue de la flûte des Mona. Ça, c'est le nom d'une chanson à lui aussi.
Oui, et puis de son instrument de prédilection.
Voilà, c'est ça, le rue. Jeune Avenue et Jeune Mona, voilà, c'est ça. Toute cette rue, c'est Avenue et Jeune Mona. Tu vois, le Passiano, ça, c'est une chanson à lui aussi.
Ouais.
Ils ont donné toutes les petites rues qui sont ici, plus ou moins, c'est le nom de ces chansons. Voilà, c'est la maison, tu vois, la maison Toll là-bas. Là. Tu vois, dans le coin là-bas.
Ouais, je vois.
Et c'est là qu'il a du moins, il habitait toujours jusqu'au dernier moment. Hein. C'était une petite baraque de rien du tout, quoi. De toute façon, ici, il n'y a jamais de triche. Hein. Tout le monde se démerdait comme il pouvait, quoi. Je sais pas, sa maman, elle travaillait à l'usine à Dillon.
Les Roms Dillon.
Voilà, ouais. En bas, là, à côté.
Eugène, comment est-ce qu'il fait pour... Comment est-ce qu'il fait, mon Dieu? Venez là.
Dans son jardin, il faisait déjà de la musique?
Ah, mais depuis tout petit, hein, plus ou moins. Depuis quand je l'ai connu, il a toujours fait ça, lui. Il se fabriquait sa flûte tout seul, avec des bambous, il faisait sécher, il faisait ses petits trucs lui-même, quoi. Il a toujours fait ça. Hein. Ouais, il avait fait un concours de chant, mais bon, ça n'avait pas marché. Il était très, très déçu.
Quand vous veniez ici, il se trimbalait déjà pieds nus partout dans le quartier?
Toujours. Je l'ai toujours connu comme ça. Dans le quartier, il était toujours pieds nus.
Déjà, donc il a vécu toute sa vie pieds nus, en fait?
Ouais, plus ou moins.
Moi, je m'appelle Robin Antonio, j'ai 18 ans.
Pour les jeunes ici, Eugène Mona, ça. Est-ce que les jeunes écoutent quand même un peu Eugène Mona?
Non, ils n'écoutent pas, ils connaissent, mais ils n'écoutent pas. Après, c'est un grand homme, forcément, parce qu'il a marqué toutes les générations avec son pied nu. Donc voilà, c'est notre culture. Il ne faut pas ignorer notre culture, il ne faut pas ignorer notre passé.
Soleil, au cœur de mes soleils, prends soleil, vous chauffez nous, puisque nous n'y doit chanter. Au cœur de mes soleils, au cœur de mes soleils, prends soleil, vous plairez nous, pour bah nous doit parler. En hommage à CC, ou intelligence libre, qui prend soleil à Paris, mène ici, bah nous, ça qui pour ça qui compte. Arrivez comprendre ça, qui manienne acteillé en 1700, vive chère, oh, vive la, pero ma dise, ma re, pardon, no, arrête, no, arrête, no, so, way, ma chance c'est pour intelligence, qui prend soleil à Paris, mène ici, balou, ça qui pour ça qui compte.
C'est aussi dans ce quartier de Morne-Calebasse qu'est situé le bureau de Jacob Nayaradou, au second étage d'un petit immeuble en ciment. Assureur de profession, Jacob Nayaradou était aussi un artiste sous le nom de Jackie Nayaradou dans les années 60. Et il a surtout produit sur son label l'un des plus riches catalogues antillais.
3A. Voilà, production 3A.
Mona enregistra 4 albums avec lui, à partir de 1976. Ils partagèrent plusieurs sessions de studio ensemble, qui se terminaient souvent à l'aube, avec la gorge complètement desséchée et des cernes sous les yeux profondes comme des volcans.
Mona s'arrêtait au petit matin, quand il avait tout donné. Chaque enregistrement était un marathon. La musique a toujours été l'une des grandes passions de la vie de Jacob Nayaradou. Mais son planning d'homme d'affaires est aussi bien chargé. La preuve. Nous avions rendez-vous aujourd'hui à 17h. Il est déjà 17h38. Il est 17h57. Il est juste 18h23. Il est 18h31. Bon, bah, il est 18h43.
Il est 19h13.
Les bureaux se sont complètement vidés. Et la nuit est tombée sur Fort-de-France lorsque Jacob Nayaradou ouvre finalement la porte de son bureau. Alléluia! Jacob Nayaradou est un monsieur sérieux dans son costume d'assureur. Et il ne mâche pas ses mots derrière sa moustache poivre et sel. Dès que je sors mon micro, il se présente spontanément.
Nayaradou Jacob, gérant du label 3A, martiniquais, âgé de 71 ans. Un assureur, avant tout un assureur, qui a trouvé que la musique n'était pas prise au sérieux, l'organisation de la musique n'était pas prise au sérieux au niveau de son département, de son île, et a voulu essayer de l'organiser. Peut-on dire qu'on a réussi? On peut dire un petit peu que oui. On a produit 350 disques, 4 ou 5 disques de Mona. Là, nous avons fait un disque qui a marché très fort. Doudou Ménard.
En tant que producteur, c'était comment une session de studio avec Eugène Mona?
C'est un scénario, hein. C'était le studio à 4h du matin, il ne fallait pas entrer. Hein. Il fallait le laisser en pleine concentration. Il avait beaucoup d'huile dans les flûtes, hein, une vingtaine d'huiles, hein, différentes. Il passait de l'huile dans les flûtes, des huiles essentielles. Donc chaque flûte a une huile, chaque morceau a une huile. Hein. Il y a beaucoup de magie dans le monaesque. Hein. Je dis ça le monaesque. Hein. C'était sa façon d'être. Hein. Donc l'été aussi, il prenait un thé en studio, il faisait des pauses en prenant son thé. Il y avait, je vous dis, de 4h du matin à 7h du matin, c'était la création de l'énergie. Hein.
C'est-à-dire la création de l'énergie?
Dans les disques de Mona, vous voyez bien que dans les chansons, il y a une forme d'énergie, il y a une énergie qui lui est propre. Hein. C'est inné en lui, mais il faut bien qu'il la communique aux autres, donc il prépare ses musiciens à entrer dans cette forme d'énergie avec lui. Hein.
Est-ce qu'il était un peu à contre-courant de son époque? Enfin, je veux dire, c'était une époque où tout le monde allait vers les villes, lui se réfugiait dans la campagne, il jouait du tambour alors que tout le monde était un peu atterré par les sonorités nouvelles.
C'était son style à lui. C'était donc, il avait choisi d'amener la flûte des mornes dans les villes, dans la ville, à Fort-de-France. C'était l'essentiel des spectacles qui se passaient dans Fort-de-France à cette époque. C'est la campagne qui descend en ville, la musique des mornes qui descend. Ce n'était que porter une culture martiniquaise le plus haut possible. Ce n'était que laisser de la culture, des traces, parce que si on n'avait pas produit tous ces Mona, hein, parce qu'à l'époque, vous savez, pour faire passer ça à la radio, ce n'était pas facile. Hein, hein. N'oublions pas qu'on m'a accusé de produire un nègre à pieds nus. Hein, c'est, je l'ai dit à la télévision, sur les ondes. Hein, on me disait, comment puis-je produire un nègre à pieds nus, hein. Mona, c'est la négritude en musique. Je l'ai moi-même dit devant Aimé Césaire, hein, en baptisant l'avenue Eugène Mona, tout près d'ici. Mona, c'est la négritude en musique.
Vous pensez à la chanson que vous avez produite « Mi-moi, mi-ou » ?
Quand il y a eu cette victoire d'Aimé Césaire à Fort-de-France devant feu M. Valère, il est clair que cette chanson était une chanson très politique. Hein. Il est fait que c'était une chanson pour valoriser la victoire d'Aimé Césaire. Voilà. Vous savez, Mona fréquentait beaucoup le parti progressiste martiniquais à cette époque.
Est-ce que vous en valez?
Non, non, non.
Vous faites cure à jour?
Non, non, non.
Ou de bonjour, monsieur?
Non, non, non.
Cadeau bonsoir, madame?
Non, non, non.
Hop,
pas besoin
d'aller.
Hop,
On va dormir des temps bas.
Pas besoin d'aller.
On va manger charbon.
sous ces bêtes, ces bites.
Pas besoin d'aller.
Les débits, c'est moi-même.
Elle
sous ces bêtes, ces bites.
Pas besoin d'aller.
Les débits, c'est moi-même. Hop,
Pas besoin d'aller.
Hop,
On
sera dormi tête en bas.
Pas besoin d'aller.
On sera mangé charbon.
Elle
sous ces bêtes, ces bites.
Pas besoin d'aller.
Les débits, c'est moi-même.
Je crois vraiment à l'homme, à l'humanité et à la fraternité. Et quand je parle de négritude, c'était pour répondre précisément aux racistes qui ne considéraient comme des nègres, autrement dit des riens.
Est-ce que Césaire et Mona se voyaient beaucoup ?
Oui, parce que Mona fréquentait beaucoup le CIRMAC, hein, l'école bâtie par Aimé Césaire. Il fréquentait beaucoup le PP, le Parti Progressiste Martiniquais. Ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que bon, c'était pas trop ça, c'était pas l'autre, sa personne. La personne, c'était plutôt l'art, l'engagement musical, etc. Il n'a pas voulu rester dans cet aspect politique des choses.
Et qu'est-ce qu'il avait attiré dans cet aspect politique des choses ?
C'était un homme engagé. C'est un homme engagé, donc c'est un petit peu l'identité, un combat pour l'identité martiniquaise. Hein. Oui, ça l'a attiré, ça, au PPM.
Ben non, nègre, vous m'appelez ? Eh ben oui, nègre je suis. N'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde.
Césaire a fait jouer Mona, il lui a ouvert le théâtre de Fort-de-France. Voilà. Et Césaire lui a ouvert la porte, disant, non, un gars comme ça, il a sa place. Césaire l'adorait, en fait, toute la génération adorait Mona. Et Césaire glissant, tous les gars de la créolité qui étaient présents à l'époque adoraient Mona. Quand ils avaient l'occasion, ils se voyaient en privé, sans nous.
En 1983, Eugène Mona apparaît dans le fameux film « Rue Cazenègre », un classique du cinéma antillais. Il joue le rôle d'un paysan rusto qui transpire dans les plantations de canne à sucre. Au cinéma comme en littérature, Mona fréquente les grands virtuoses de sa génération. Il s'inspire particulièrement de Césaire pour la poésie créole, l'engagement politique, et il échange pour la musique avec le flûtiste Max Silla, qui devient pour lui comme une sorte de mentor mystique, obnubilé par l'idée de la création, au sens spirituel du terme. Nous sommes dans les années 70. Mona et Silla partagent le goût de la liberté et les mêmes intérêts pour le naturalisme, le psychédélisme, toute forme d'art et de spiritualité. C'est aussi leur quête identitaire qui les réunit, leur façon de vivre. Max Silla continue aujourd'hui d'entretenir cette philosophie dans laquelle la musique accompagne chaque instant important de la vie, les mariages, les naissances, les décès, et aussi le quotidien ordinaire dans les campagnes antillaises. À 77 ans aujourd'hui, Silla trimballe toujours son instrument avec lui, même quand il a rendez-vous pour une interview.
Ça, c'est mon sac de flûte. Celle-là, elle est en sol.
D'une certaine façon, c'est le bambou qui donne naturellement la tonalité de la flûte.
Oui, qui prédispose pour telle ou telle tonalité. On ne touche pas à la colonne d'air. C'est une colonne d'air naturelle de la plante. Dans la tradition bouddhiste, ils disent que le bambou, c'est la flûte du zen. Parce que ça pousse autour du vide. Vous savez, vous abordez un sujet très complexe, parce que j'ai étudié pendant des années avec un maître de lutherie, et il y a une relation au bambou, à la plante, qui est très importante. Déjà, le fait même que l'instrument n'est pas disponible de manière commerciale, c'est-à-dire on ne peut pas aller dans une boutique dire « je vais m'acheter une flûte de bambou, comme on va s'acheter un saxophone, une clarinette ». Donc, il faut déjà une relation avec un artisan. Voilà, c'est ça toute la différence. C'est que ça ramène à une vie paysanne. On prenait le temps, il y avait une relation humaine, une transmission, un phénomène de transmission entre celui qui a l'expérience, qui a la connaissance, et celui qui veut apprendre. Donc, il y a beaucoup de lois à connaître. Et en même temps, ça fonctionne beaucoup sur l'intuition. Je suis Max Silla. Celui qu'on nomme aux Antilles, le père de la flûte des morts. Je suis à l'origine de la restauration et la réhabilitation de cette flûte des campagnes. Et ensuite, j'ai enseigné à de nombreux élèves, dont Eugène Mona, bien sûr.
Thank you.
travail a consisté non seulement à faire émerger cette flûte comme symbole, vraiment comme symbole d'invincibilité. Cette flûte des mondes devenait une sorte d'exutoire, un vecteur pour lequel on pouvait exprimer son blues. C'est comme le blues pour l'afro-américain qui a mené une vie dure dans le sud des États-Unis et qui se retrouvait dans son blues. Eh bien, la flûte de bambou, et le belay aussi d'ailleurs, tout le chant belay, c'est une affirmation de notre authenticité, de notre force de volonté de vivre, d'être et d'exister. Et j'ai rencontré Eugène Ona exactement à la commune du Robert, à une soirée dansante en décembre 1970. Cette soirée dansante était animée par l'orchestre La Perfecta. Et c'est à cette occasion, j'ai fait le bœuf avec La Perfecta. Et ensuite, je suis redescendu dans le public. Et à ce moment-là, je vois venir vers moi un grand jeune homme noir, bien balancé, et qui me dit « Tu peux laisser mon gars des flûtes au roi, est-ce que tu peux me laisser regarder ta flûte ?» Parce que pour se lancer, il envisageait la clarinette ou le sax, un instrument plus officiel, quoi, disons. Mais je lui dis « L'instrument avec lequel tu vas le mieux t'exprimer, qui va correspondre à qui tu es, c'est cette flûte de bambou. » On se voyait, il venait chez moi, souvent, et je lui faisais bénéficier de mes expériences, parce que je venais de fréquenter à Paris des clubs de musique cubaine. Il y avait un club, oui, Monsieur le Prince, et le quartier latin, qui s'appelait l'Escale. Il y avait un orchestre cubain qui jouait à la cave. Et au rez-de-chaussée, il y avait là des joueurs de harpe indienne, des joueurs de quena. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison que notre flûte des campagnes ne soit pas reconnue. Et c'est ce qui m'a vraiment motivé. Et quand j'ai rencontré Mona, j'ai vu qu'il avait le profil de la personne qui pourra le mieux me comprendre et être un peu le relais de ce projet sur le plan pratique. La flûte, c'est notre âme. C'est la lumière des sphères supérieures éthériques. C'est le messager des dieux qui vient se conjuguer au tambour pour donner quelque chose d'extraordinaire. Le tambour exprime davantage l'enracinement aux énergies telluriques. D'ailleurs, c'est fait avec les troncs d'arbres et puis la peau d'animal. Et c'est aussi la lutte, le tambour, c'est tout ça. La musique de Mona, c'est beaucoup un combat spirituel, c'est tambour sérieux. Tambour sérieux, c'est-à-dire le tambour, c'est quelque chose de très sérieux, de très important. Le totem du peuple noir. Et Mona a composé Tambour sérieux, qui est un thème extraordinaire.
Mona, wale à la haut, 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 Mona, wale à la haut.
C'est un instrument qui nous a servi de téléphone, qui nous a servi pour nous révolter, pour nous apaiser, pour nous faire danser. Donc c'était un symbole pour lui.
Mais j'avais l'impression que le tambour aussi pour lui n'était pas juste ce rapport à l'Afrique, ce rapport à l'esclavage évidemment, mais aussi le coup de tambour est un coup de tambour qui réveille les consciences, qui fait passer de la réalité au mystique ou du mystique à la réalité.
C'est justement le côté spirituel. C'est le tambourier qui gère les deux danseurs de Ladia ou de Damier. Et les anciens nous expliquaient, avec un coup de tambour, tu peux faire le danseur qui est devant toi tuer l'autre. Avec un coup de tambour. Et tu peux aussi le faire perdre le combat avec un autre coup de tambour. Il faut rentrer dans la culture profonde. Les croyances d'Antoine Mona étaient très croyants. Il te dit, un coup de tambour peut réveiller un mort. Si on veut parler de zombies, par exemple, bon, et Haïti, le mort vivant. Et le tambour permet de réveiller l'essence de ces gens-là.
T'as compris ça?
Non.
Maman est là parée pour tuer tambour. L'enfant est prêt à tuer le tambour.
Tuer le tambour.
À tuer le tambour. Qu'est-ce qu'on entend là? L'enfant m'a dit, le tambour c'est une personne, il faut la soigner. Je demande la vie au tambour. Ça tue. Ah, ça tue. Qu'est-ce qui tue? Je sais pas, tout, la conception, comment les choses repartent, comment il suspend le temps, comment il enroule sa voix avec un. Comme du caoutchouc, tu vois, il te tient en haleine. Et tu sais que le beat va repartir, mais tu sais pas quand, de la dance, de l'électro, je veux dire. Ça tue parce que les paroles tuent, les... Bah, tu vois, oui, non, c'est le sculpteur, il s'amuse. C'est vrai que sa voix, il est vraiment fort, il arrive à faire ce qu'il veut avec sa voix, c'est un élastique. C'est du caoutchouc qui modèle, quoi. C'est hyper bon.
Eugène Mona.
Sur scène, on pourrait croire que Mona a entré en transe. Je me rappelle à la Mutualité à Paris, où il a fait des jours pleins, 5 jours pleins, 6 jours pleins même. Comment la sueur dégoulinait du corps, comment... Et chaque chanson, c'était une transe particulière, mais c'est une transe naturelle. C'est une communion avec le public, communion entre le corps, l'esprit et la musique.
Et vous étiez là, la Mutualité, c'était comment le public, il a reçu comment cet artiste?
Il faut trouver les jazz hot de l'époque, et il faut les trouver si vous les trouvez. On lui a rendu un hommage manifeste, jazz hot, toutes les radios lui ont rendu hommage, Radio France, beaucoup de gens sont venus. Il y a eu des artistes comme Gilbert Bécaud à ce spectacle, Christiane Edapierre est venue lui rendre hommage, etc. C'était à ce moment-là. Et jazz hot avait dit « une étoile du monde noir est née ». Une étoile du monde noir est née, ils ne se sont pas trompés.
Il y a eu la Mutualité, on était là-bas, et c'est l'un des spectacles où on a vu Mona décoller du podium. Il y avait du monde. Les organisateurs avaient un peu peur parce que à cette époque-là, les spectacles antillais étaient très mal vus, dans la mesure où il y avait toujours une bagarre après. Et Mona avait canalisé ce public-là. C'était quelque chose de terrible. C'était deux heures et demie de spectacle non-stop. Et avec Eugène, avec sa stature, 90 kilos, pratiquement 1m90. Et quand il était sur scène, c'était un monstre. Et il se donnait corps et âme. Et il fallait que derrière, on soit aussi à son niveau. Et le physique prenait un coup aussi.
Comment ça, le physique prenait un coup?
Oui, parce que si tu n'étais pas prêt physiquement, parce qu'il faut te dire que les répétitions se faisaient sur le stade. C'était 10 tours de piste avant de faire de la vocalise. Il fallait qu'il soit toujours en action pour évacuer et le stress et ce trop plein de d'énergie.
Oh non, monsieur, On me dit que c'est pour nous souffle. Oh non, monsieur.
Quand il a joué à la Mutualité, il a eu un tel succès qu'il y a un agent qui est venu le voir. L'agent lui dit, vous avez un charisme extraordinaire, vous avez une voix, tout et tout, un talent extraordinaire. Je peux faire de vous une grande vedette internationale. un peu dans le genre Otis Redding, qui à l'époque était un des grands porteurs de flambeau du rhythm and blues, parce que Mona, c'était le genre de charisme comme ça, quoi. Grand noir, et bougeant sur scène, animateur. Donc le gars, cet agent lui dit ça, seulement, vous allez reconsidérer votre look, ce sera costard, souliers vernis, nœud papillon, enfin, le profil du showbiz classique. Mona m'a dit, il a regardé le gars, il a dit au gars, vous ne savez pas à qui vous vous adressez, je n'ai rien assuré de votre fameuse promotion internationale, parce qu'à ce moment-là, je me sentirais une marionnette. Je ne serais pas moi-même, donc ça ne m'intéresse pas.
Ta mère ne dort jamais, ton père est un cimetière, même avec l'homo fatigue, tu vas grandir, Elaini. Tout nu au jour que s'ennuie, elles ont grandi en duit, elle n'a qu'une part du poids, mais ta race à foi et voix. Gouache, 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 ça fait mal, ça fait mal, il fait mal. Pas t'es ni joie ni loi. Maman, ancêtre, c'était Chiman, ancêtre, papa, c'était Boui. Nous sémillés, mais nous solides.
On reçoit la visite de Bruno Cocatrice, qui était le directeur de l'Olympia. Et il avait dit à Mona, quand tu veux, je suis preneur. Et Mona avait répondu à Bruno Cocatrix qu'il n'était pas encore prêt. Après, quand Bruno est parti, on s'est un peu engueulé. Tu sais très bien que ce n'est pas n'importe qui passe à l'Olympia et tu refuses. Avec un large sourire, le gars nous sort, on n'est pas encore prêt. Quand nous sommes prêts, je vais vous le dire.
Est-ce qu'il aimait venir en métropole ou est-ce qu'il ne se sentait pas bien là-bas ou est-ce que...
Mona se sentait bien partout. Il était ancré dans sa culture ici. Il nous expliquait tout le temps, je préfère partir de chez moi et rayonner au lieu de rester là-bas, perdre une certaine vibration que ce sol-là m'apporte. Il connaissait toutes les plantes médicinales de chez nous. Lui, c'était ça, c'est sa nature. Quand la mer est un peu forte comme ça, houleuse, c'est à ce moment-là qu'il a dit, bon, ben, je vais dans les vagues. C'est cette puissance des vagues qu'il recherchait pour pouvoir retransmettre sur scène.
Est-ce que c'est vrai qu'il faisait des retraites à la montagne Pelée ?
Oui. Le vendredi, Mona ne jouait pas de musique. Ça rappelait le vendredi saint. Il a quand même fait une démarche spirituelle au niveau de pratiquement toutes les obédiences qu'il y avait, que ce soit catholique, adventiste. Enfin, il a fait la démarche. Et ensuite, il s'est dit, ma démarche est terminée et je vais appeler l'Éternel Papa. Quand il prie, c'est papa qui le dit. Et le vendredi, il se disait, je prends ce jour-là pour moi. Il priait, il méditait, il écrivait. Il pouvait rester là 22 jours, hein, tout seul là-haut, hein, à la montagne Pelée. Et pas au premier abri, hein, tout en haut de la montagne, au fait même de la montagne, où on voit pratiquement toute la Martinique.
Il est passé par plusieurs phases, hein. Il y a même une phase Rastafari à un moment, hein, qui, où les gens l'ont beaucoup descendu en flèche. Hein, on n'a pas compris. C'est une recherche. Hein. Et il a fini, effectivement, totalement dans la religion catholique. Hein. Les prêtres. N'oubliez pas qu'à sa mort, il y a eu 5 curés. Hein. 5 prêtres qui ont fait sa mort. Hein. Les 5 prêtres sont venus faire sa mort. Mona, les prêtres, à sa mort, ont dit qu'il avait un don de Dieu. Il avait effectivement un don en lui. Hein. Il allait vers le haut. Pêcher vers le haut pour ramener vers le bas. C'est de la spiritualité, là. J'ai nommé ça du monaesque. Et puis, il y a un truc très important que dans la philosophie monaesque que l'on n'a pas beaucoup vu, c'est que Mona était habité par l'idée de la mort. Oui, très tôt, il en parlait souvent. Hein. C'est philosophique, ça aussi. L'idée de la mort, il fallait en parler, comme beaucoup de philosophes en parlent. Hein. Bon. Parce que Mona était un artiste philosophe. Vous avez l'hymne à la mort, « Agulus c'est la mort ». C'est pour montrer que pour lui, la mort et la vie, ça marche ensemble.
Ça, c'est l'hymne national de la mort. Parce qu'en passant, si les morts ni le souvenir, ils ont passé par le chemin de la vie, mais moi, pour nous savons, nous qu'ils passer par le chemin de la mort. Oui, nous qu'ils passer par le chemin de la mort. Oui, nous pour passer par tes chemins, ils ont crié « Chemin, chemin la mort ».
Vers 1984, Mona décide de s'éloigner un moment des studios d'enregistrement. Il entame une phase mystique. Il se retire loin du monde pour étudier la méditation tibétaine, les rites sacrés des Indiens et la philosophie du Négus, Selassie, le dieu des Jamaïcains.
Yeah!
Les journaux l'oublient un peu, les radios diffusent moins ses chansons. Et lorsqu'il tente de revenir, en 1991 avec l'album Blanc Manger, le public n'est plus vraiment au rendez-vous. Mona voudrait s'adapter au son moderne, mais ses claviers midifiés sonnent un peu kitsch, voire très kitsch. Ce morceau, Face à Face, aura malgré tout un certain succès. Il entreprendra ensuite de former un big band, une fanfare composée d'instruments traditionnels martiniquais, pour représenter sa musique lors d'une grande tournée internationale. Il s'adresse alors aux différents producteurs locaux, aux institutions culturelles, aux instances de la région. Il lance même un appel au public lors d'une émission de télé, en demandant carrément aux Martiniquais de se priver de dîner pour le soutenir financièrement.
Je demande à tous ceux qui aiment ma musique et qui aiment la musique traditionnelle, qui aime une musique différente, donc de me donner un balance, si c'est possible, de vous priver peut-être un samedi soir de graille, que cet argent puisse aller au corps musical et revenir à Eugène Mouna pour monter un bing-bang et représenter la Martinique en Europe. Je vous remercie beaucoup.
Ce sera en fait son dernier passage télé. Mona ne récolte quasiment rien. Frustré, incompris, Mona succombe à l'une de ses fameuses colères fulgurantes, le 21 septembre 1991. Une colère déclenchée simplement par une dispute avec un voisin.
On dit une congestion. C'est très certainement rupture d'anévrisme. Tôt ou tard, Mona allait mourir comme ça. Dès qu'il y avait une injustice, il se mettait en colère. Il ne pouvait pas supporter l'injustice. Mona avait une forme de colère très brute, quoi. Dans un coup de colère, il pouvait écraser une blanche avec un coup de poing.
Mona a succombé ce matin d'une congestion dans cette maison qu'elle occupait pas au froid.
Le samedi, 8h du matin, la radio m'annonce que Mona a eu un souci. Mona a eu un souci. Et c'est quand nous sommes arrivés à Montcalbas, il était couché à terre. Monsieur Darcier, justement, qui était déjà arrivé, qui lui dit « Ah non, c'est fini pour Mona. C'est fini. » Et dès lors qu'on a diffusé la mort de Mona, toute la population de la Martinique s'est mise debout. Toutes. On a tous convergé chez Mona. Pratiquement tous les musiciens du bassin sont venus. C'était Marigot, Vauclin, avec là, des gens sur toute la route.
C'est des obsèques extraordinaires qu'il a eu. Ah là là, on n'a jamais vu ça, hein. Oh là là, les deux grandes obsèques qu'on a vues ici, c'est celle de Jeune Mona et celle d'Aimé Césaire. Hein. Mona, c'est tous les enfants étaient sur les trois, au Marigot. Il y a eu à peu près 5 km d'embouteillage. Le cortège à pied faisait 3 km. Vous vous rendez compte, un cortège de 3 km. Quand nous sommes arrivés au Vauclin, ce fut pareil. Hein. Tout le monde sur les trois, etc. Attendant Eugène Mona, voilà. Non, mais enfin, Mona appartient à la Martinique. Hein. Il n'était ni de Fort de France, ni de Marigot, ni de Vauclin. Il est de toute la Martinique.
Le plus important, on a compris ça, c'est d'affirmer maintenant qui nous sommes. Je crois que c'est ce que les ancêtres attendent le plus de nous. C'est que nous valorisons qui nous sommes. Et puis, ce que je vais vous dire hein, dans tout ça, c'est qu'en dehors de tous les aspects très profonds et sérieux de notre démarche, au grand étonnement peut-être de certains, mais ce qui prédomine, c'est la joie. La joie. À la base, c'est la joie de vivre qu'on exprime. C'est une joie qui résulte de l'appréciation qu'on a de la vie, de la nature, la conscience qu'on a de comment on est nanti par la nature et on exulte à exprimer cette joie dans la musique.
Arte Radio.
Et dites mes tiens, vous comptez. Et dites à mon meilleur, quoi ça vous fait sur la château dans le nom, le choc à rouler, tout bagaille. Vous comptez. Bon, mais merci beaucoup, arrivé, au soir, nous pas bailler en balle. Mais avant nous bailler balle, là, nous pas faire en course. Montagne dans les montagnes bouclées. Seigneur, arrivé, cap au pied, nous tous, 73 fois, 3 fois, plus après la baie des Guinées, vous nous avez fait. Nous taquine les milliers, ça qui joue à joue, balle, roulez. Cap en attendant les autres, tout ça. En attendant les autres, tout ça. Cap en attendant les autres, tout ça. En attendant les autres, tout ça. Cap en attendant les autres, tout ça. En attendant les autres, tout ça. Cap en attendant les autres, tout ça. Ah, et heureusement, nous retirons.
Heureusement mon côté rivé. Heureusement mon côté rivé. Heureusement mon côté rivé. Heureusement mon côté rivé.
Vous êtes bien sur Radio Campus 90.8 dans l'émission Le Rhume du Son et vous venez d'écouter le documentaire de David Comeyas, Eugène Mona, Le Nègre Debout, un documentaire produit par Arte Radio. On est en présence maintenant d'un historien et peut-être de deux historiens selon s'il nous rejoint en cours de route. Alors, avec nous ce soir, il y a Richard Château-Degas, qui est enseignant-chercheur en histoire moderne et contemporaine à l'Université des Antilles en Martinique. Et peut-être Jean-Pierre Sainton, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université des Antilles également, mais en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus vos domaines de recherche et d'intérêt ?
Oui, alors tous les deux, nous sommes plus portés sur l'histoire sociale et politique des Antilles, de la Caraïbe.
Et du coup, avant de rentrer plus profondément là dans le documentaire qu'on vient d'écouter, dans son analyse, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être brièvement quelques éléments clés de l'histoire de la Martinique et puis plus précisément nous décrire justement la situation de l'île dans les années 60-70 ?
D'accord, voilà, de manière, on va essayer de faire ça de manière synthétique.
C'est un peu dur ce qu'on vous demande, c'est vrai.
Oui, bon, donc la Martinique fait partie des colonies modernes, c'est-à-dire des colonies, du processus de colonisation qui commence à la fin du XVe siècle. La France est en retard dans ce processus de colonisation qui est initié par les Espagnols et les Portugais. Donc, nous sommes des colonies du début du XVIIe siècle. Et avec nous, si vous voulez, s'initie la colonisation qui est fondée sur l'exploitation du sol. Donc, des cultures exotiques donc pour l'Europe qui vont faire la richesse de ces colonies, en tout cas de ceux qui dominent ces colonies, et qui vont reposer sur l'exploitation d'une main-d'œuvre gratuite. On connaît l'esclavage, la traite des Noirs, donc un circuit Europe, Afrique, Amérique. Pour aller très très vite, ces îles qui sont devenues, donc qui ont été des colonies françaises jusqu'à 1946-47, c'est une période qui voit plusieurs mutations. Donc d'une part, l'assimilation, la départementalisation correspond à une quête d'égalité chez les populations colonisées qui ont subi le préjugé de race, vraiment de la manière certainement la plus ignoble qui ait existé. Donc,
Oui, tout à fait. Et du coup, j'allais dire, donc 10 ans après, presque 20 ans après cette départementalisation, on en est où alors en Martinique au moment où Eugène Mona...
Oui, donc voilà. Donc, ce qui est intéressant, problématique, c'est le fait que cette demande qui est très longue et qui aboutit à l'assimilation, est très vite remise en cause. C'est-à-dire que ce n'est même pas 10 ans, hein, c'est beaucoup moins que ça. C'est-à-dire, on peut dire que dès 2 années, 3 années après la mise en place de l'abolition, de la départementalisation, ceux-là même qui ont porté la loi, notamment Aimé Césaire, se rendent compte que bon, l'égalité attendue, ce n'est pas cela. Les comportements, évidemment, n'ont pas changé. Les premières grèves d'ouvriers agricoles après la départementalisation finissent comme les autres dans le sang. On tire sur des ouvriers qui sont dans la rue parce qu'ils sont en grève. On tue, et ça, on commence à se poser, on se dit, mais en fait, cette égalité, non, on ne nous traite pas comme des Français. Et cela continue. Dans les années 50, ce sentiment d'échec et d'impossibilité d'obtenir l'égalité se renforce, cela débouche sur un soulèvement urbain, notamment en décembre 1959, qui va se prolonger par l'apparition d'une première organisation autonomiste, indépendantiste, c'est-à-dire le mouvement LOJAM, l'organisation des jeunes de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise. Et à partir donc des années 60, ce sentiment, cette volonté d'affirmer et d'accepter et d'affirmer une identité spécifique martiniquaise, guadeloupéenne, antillaise, sans forcément remettre en cause l'appartenance française. Donc là, ce sont les autonomistes, mais de plus en plus en remettant en cause également l'appartenance française, va se développer. Donc à partir des années 60, se développe un mouvement autonomiste et un mouvement indépendantiste.
Et donc l'œuvre de Jeanne Monnat, elle s'inscrit en fait dans ce contexte-là.
Dans ce contexte-là.
Et, est-ce que c'est une composante importante aussi de cette lutte contre la discrimination et l'assimilation?
Absolument. Absolument. Voilà. Donc Jeanne Monnat, il apparaît à la fin des années 60, 68, je crois, il gagne des concours dans des fêtes patronales. Donc le chanteur commence à être connu, mais ça reste anecdotique. Et puis en fait, c'est 1973, je crois, je pense que 1973, au Festival culturel de Fort-de-France. Donc Césaire est encore là, et Césaire accordait beaucoup d'importance à la question culturelle. Il pensait que l'éveil du peuple se passerait par notre combat, passait par le combat culturel. Donc il y a un gros festival culturel annuel qui se déroulait au cours du mois de juillet. Et c'est là que Monnat, à ma connaissance, apparaît aux Martiniquais et aux Antillais, parce que ce festival attire un public et des acteurs de la Martinique en masse.
Et justement là, sur, oui. pour rebondir là sur la relation entre Césaire et Monnat, on a l'image de Césaire comme un grand poète, une grande figure de la négritude. Donc c'est vraiment, il y a une dimension littéraire très forte dans la négritude. Est-ce qu'on peut dire que Monnat aussi s'inscrit dans ce mouvement-là, sachant que on sait que c'est un mouvement qui débute dans l'entre-deux-guerres.
Oui, absolument. T'as dit qu'il s'inscrit dans cette période d'émergence de l'identité nègre, c'est-à-dire de la revendication de l'identité nègre. Hein. Césaire dit, bon, on ne le dit à personne, mais le nègre est en merde. Ça veut dire que vous nous traitez de nègre. Bon, ben moi, je le... Ok, je suis un nègre et le nègre est en merde. Donc, on ne rejette plus la filiation à l'Afrique. On n'est plus blessé par cette appellation. On ne rejette plus, on l'assume et on dit oui, je suis et je suis fier de l'être. Donc ça correspond à cette période des années 50, 60, 70. Et la période des années 70, le début des années, la fin des années 60, le début des 70, c'est vraiment la période où ce sentiment se radicalise. C'est vraiment l'émergence, c'est le passage de l'autonomisme à l'indépendantisme. Et donc Monnat, c'est un acteur culturel, ce n'est pas un acteur politique au sens où on l'entend généralement, c'est un militant, c'est-à-dire que Monnat, il se produit les pieds nus. Ouais. C'est-à-dire que c'est un rejet de la posture occidentale. Mes cheveux grainés, mes cheveux crépus, bon, ils sont crépus, je les assume, et il se produit comme un paysan, c'est-à-dire c'est quelqu'un du peuple, et il assume ce lien avec ce qu'on a appelé dans les années 20, les années 30, le petit peuple noir.
Donc il y a un caractère quand même peut-être plus populaire dans la musique de Monnat et dans la négritude qu'il incarne que des théoriciens de la négritude comme Césaire, par exemple.
Absolument. Ce n'est pas une négritude intellectuelle. C'est une négritude des tripes, une négritude du corps, une négritude de l'esprit également. On le verra, c'est pour ça que le morceau que nous écouterons le montre bien. Mais c'est vrai dans toutes ses chansons, c'est quelqu'un qui rompt avec une tradition, avec des habitudes, une tradition où le noir antillais cherchait à montrer, comme je vous l'ai expliqué, qu'il était civilisable, donc qu'il avait les comportements attendus par ceux qui sont civilisés, c'est-à-dire l'autre, donc costard, cravate, même s'il fait très chaud, etc. Voilà, le nègre arrivé, il porte la veste.
Ouais, oui, et dans ce mouvement-là de rejet de cette assignation et de cette assimilation identitaire, on parle pas mal dans le documentaire de la musique de Monnat comme une musique racine. Et effectivement, les instruments aussi qu'ils choisissent, les instruments de prédilection, il y a la flûte des mordes, donc la flûte un peu des campagnes, le tambour qui s'inscrit dans l'histoire martiniquaise et qui renvoie aux origines africaines, à l'histoire de l'esclavage. Est-ce que cette référence à l'histoire, elle est nécessaire à l'affirmation de cette identité culturelle singulière, justement ?
Absolument. Elle est absolument indispensable. C'est une récupération d'un pan de notre identité qui était stigmatisant, qui était rejeté parce que la référence à l'Afrique était utilisée, parce qu'on a toujours vécu en Martinique dans un face-à-face entre la population noire et la population blanche, et béquée, c'est-à-dire blanche traditionnelle, c'est-à-dire les vieux blancs, c'est-à-dire les blancs installés de longue date, etc., donc qui sont psychologiquement, de l'autre côté, qui sont perçus comme des personnes qui sont entachées du péché de l'esclavage, du péché de l'esclavagisme. Par les Noirs, hein, et qui eux-mêmes vivent dans un certain malaise, certainement parce qu'ils savent qu'il y a ce contentieux. J'ai perdu ma question. La question. J'ai fait un crochet, une parenthèse.
Mais voilà. Oui, en tout cas, vous y avez répondu, comme quoi voilà, la référence à l'histoire, la réappropriation aussi de la mémoire de l'esclavage est absolument nécessaire pour affirmer une identité culturelle singulière. Et du coup, comment s'articule vraiment là-dedans l'africanité et la créolité dans cette réappropriation identitaire ?
Oui. Le tambour a été... il n'a jamais disparu, hein, sinon il ne se serait pas relevé, mais la période des années 70, c'est dans ces années qu'on se remet, c'est-à-dire que le tambour sort des coins où il avait été refoulé, c'est-à-dire des campagnes de Sainte-Marie, c'est-à-dire c'est la base, le foyer du tambour, c'est là où il a résisté, il s'est caché là, dans les mornes de Sainte-Marie, les gens, ce n'était pas bien. Jouer au tambour, ça faisait de vous un vieux nègre, c'est-à-dire un nègre d'habitation, un nègre à peine sorti de l'esclavage, un nègre non civilisé. Donc on a vécu vraiment une période de stigmatisation de tout ce qui nous ramenait à la période formative de la société martiniquaise, qui est celle de l'esclavage. Les années 60-70, c'est la récupération, c'est le redressement du nègre qui marchait courbé sous le poids de son histoire et qui dit non, cette histoire, désormais, elle va me porter. Et pour me porter, je vais m'appuyer sur des symboles de cette négritude. Et le symbole numéro un, c'est le tambour, parce que l'histoire dit qu'en 1848, la libération des esclaves est venue parce que l'esclave roumain s'est assis sur un tambour et qu'il a commencé à jouer au tambour, ce qui était interdit. On l'a enfermé et les esclavagés se sont mobilisés, sont allés et ont obtenu sa libération et dans la foulée, l'abolition de l'esclavage. Donc le tambour a une valeur symbolique, symbolise donc cette lutte. Enfin, ça nous renvoie forcément à l'Afrique, ça nous renvoie forcément à la période de l'esclavage, mais c'est devenu également un symbole de la résistance, de la lutte des esclaves.
Ouais, tout donc, à fait. Donc voilà. Finalement, l'utilisation du tambour, Mona, on rejoue pas un peu la musique d'origine. Là, on a vraiment l'impression qu'il est dans une modernité parce qu'une réappropriation moderne, en fait.
Oui. Absolument. Il a son originalité. Donc, ces années, c'est la renaissance du tambour. Donc, beaucoup de jeunes étudiants
qui se réapproprient du coup l'instrument.
Reviennent en vacances, qui sont étudiants en France, etc. Quand ils reviennent en vacances, ils vont dans les campagnes, ils vont apprendre, ils vont auprès des vieux apprendre à jouer le tambour. Et on voit se développer des mouvements, des groupes bellets. Et c'est dans ce contexte donc, de renaissance du tambour que Jeanne Mona arrive avec quelque chose qui est le tambour, mais qui n'est pas le tambour des origines. Mm. Et il revient avec le tambour d'Ibas. C'est un autre tambour qui, visiblement, a également une influence indienne, des Indiens qui arrivent au 19e siècle, après l'abolition de l'esclavage, ont fait venir de nouveaux migrants travailleurs sous contrat, parmi eux beaucoup d'Indiens. Le tambour de Diba, c'est un tambour plat qui se joue à deux mains, etc. Donc, il introduit plusieurs instruments, non plus seulement le tambour, mais d'autres instruments qui fonctionnent avec ce tambour et qui sont représentatifs des cultures de la Martinique. Et ça, ça provoque provoque une attraction, c'est-à-dire que Mona, c'est quelqu'un qu'on n'écoute pas sans avoir des frissons.
Je vous propose justement qu'on l'écoute, et vous nous avez proposé d'entendre un de ses morceaux.
Moins qu'à douter, oui. Moins qu'à douter.
Alors, à tout à l'heure, après Moins qu'à douter de Jeanne Mona.
C'est pas l'abbé qui pas fait la messe bien. C'est pas Couli qui baille malédiction, qui fait Saint-Pierre brûler. Mais nous, tout ça, Saint-Pierre, pas t'es ni pièce pureté, pas t'es ni pièce sagesse, vous t'es dévié cancan. Ni en des dix philos qui pas t'es les comprendre, ni en seul philosophe. Là, il dit que cela fut, que cela disparaît, il n'a pas besoin de matière. Ah oui, Saint-Pierre est belle. Ah oui, Saint-Pierre est roi. Mais pas t'es ni pièce sagesse, c'est pour ça qu'on peut péter. Et là, il pète des feuilles, il mette des feuilles. C'est pour te brûler les mauvais vivants qui t'es possédant, toutes les charlatans. La pour entendre Saint-Pierre passé pas mal pas t'es ni djemoun qui t'es qu'à jeûner faut qu'il t'es brûlé moi bien peiné mais manque à douter m'en ai l'impression toute Caraïbe là qui m'en Saint-Pierre. Laissez malédiction, bas Saint-Pierre. Passant yo coulé, yo tombé par les coloniers qui pas qu'à adorer. C'est fouet, fouet. Jusqu'au fond des sons, cancan poussé, racine gonflé. Maman, cancan qu'a aspiré, cancan qu'a dominé. Personne ne va te soucier. Quand t'es qu'est pété, volcan n'y pété, tué les bons comme mauvais.
Nous sommes de retour dans le rhume du son sur Radio Campus 90.8. Nous sommes avec Richard Château de Gas. Qui est doctorant du coup en histoire moderne, c'est ça ?
Oui, voilà. En histoire contemporaine.
Et contemporaine. Richard, moi je voulais creuser avec vous, vous avez commencé à en parler là, comment finalement Eugène Mona en est arrivé finalement dans son art à devenir porte-parole de la négritude, à être critique, puisque finalement, voilà, comme vous disiez, il n'était pas intellectuel. Qu'est-ce qui finalement, dans son parcours de vie, l'a mené vers ce mouvement-là?
Ça, je ne saurais vous le dire. Exactement, je pense que c'est le temps, c'est-à-dire que la période, la conjoncture, c'est un produit de son temps. Il n'est pas politisé au sens partisan du terme, c'est-à-dire qu'à ma connaissance, il n'appartient à aucun parti. Césaire l'attire, évidemment, donc il fréquente Césaire, il parle avec Césaire, mais il ne parle pas qu'avec Césaire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'élite qui l'attire, il s'enrichit de tout. Donc il fréquente l'Église. Vous ne comprenez pas très bien les paroles, mais dans ces paroles, il y a une culture chrétienne qu'il a en lui, qu'il porte. Et il interprète le monde également avec cette culture chrétienne, mais pas seulement avec cette culture chrétienne. C'est quelqu'un qui est dans une démarche de reconstruction. Il est pris dans ce vent, dans ce souffle qui traverse la Martinique à tous les niveaux, dans toutes les couches, toutes les catégories sociales, depuis Césaire, qui représente le summum de l'élite intellectuelle, jusqu'aux pêcheurs qu'il fréquente beaucoup, aux gens du Marigot, de la petite bicoque, où il se rassemble, ces musiciens qui jouent avec lui, ce sont des gens du peuple, ce sont des gens qui ne sont pas forcément allés à l'école, mais à l'école institutionnelle, mais qui sont allés à l'école de la tradition, à l'école de leurs parents, à l'école de leur quartier, de ceux qui se jouaient en cachette, de ceux qui s'apprenaient en cachette. Et en fait, il va cristalliser tout cela et il va offrir à la Martinique, mais aussi à la Guadeloupe. Il a une popularité très grande dans ces deux régions. Il va leur offrir une sorte de synthèse nouvelle qu'il porte, que lui-même représente et que sa musique porte.
Et aujourd'hui, justement, cette question là, d'émancipation identitaire antillaise, est-ce qu'elle est toujours actuelle ? Comment elle se traduit, quelles sont ses formes actuellement, culturellement et politiquement? Est-ce qu'il y a des nouvelles grandes figures, par exemple, où,
Il n'y a pas de figure aujourd'hui qui fasse l'unanimité. Bon, il y a des figures fortes, hein, en littérature, il y a Confiant, il y a Chamoiseau, donc il y a quand même un certain nombre de... Nous avons des talents au plan romanesque, au plan de la réflexion intellectuelle. Les années 70, c'est la naissance d'une dynamique. Cette dynamique, elle est très, très porteuse et très créative pendant 15-20 ans, deux décennies. Et là, je pense, ça c'est mon analyse, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de maturation. Alors, ces trois décennies ont changé beaucoup de choses. Mais je crois que depuis quelque temps, nous sommes à la recherche de nouveaux souffles.
Et Richard, comment on arrive aujourd'hui à la Martinique à parler de l'histoire coloniale ? Je vous pose la question parce que en métropole, on voit actuellement que ces questions elles tendent. À Grenoble en l'occurrence là, donc l'émission là d'aujourd'hui s'inscrit dans un mois décolonial qui a amené beaucoup de débats, qui a buzzé dans les médias au niveau national, qui a posé beaucoup de débats stériles. Et voilà, quand on parle de l'histoire coloniale, en tout cas en métropole, on sent que ça se tend assez vite. Comment ça se passe en Martinique ?
En Martinique, ça ne se tend pas. Nous en parlons et je pense que tout le monde est conscient que la question se pose. Donc il n'y a pas cette crispation qu'on assiste dans la société française. La société française aujourd'hui a un problème de... a du mal en fait. La société française, je pense qu'elle n'a pas réussi, enfin, elle a eu beaucoup de mal, je pense que c'est une des sociétés européennes qui a eu le plus de mal à construire un rapport sain avec son histoire coloniale. Et ce qui s'est traduit par les faillites qu'il a connues. Hein. Je rappelle qu'à la sortie de la guerre, il était question de créer une union française. Je ne suis pas certain que cette idée était au départ impossible à réaliser. Elle ne s'est pas réalisée parce que la France n'a jamais réussi à sortir de sa conception coloniale. Même quand elle parlait d'union française, elle concevait un empire colonial. Elle n'a jamais accepté de réévaluer son regard sur les populations qu'elle avait colonisées et qu'elle s'était donnée pour mission de civiliser. Donc, elle n'a jamais reconnu elle-même d'avoir, tout en disant qu'elle avait réussi sa mission, elle n'a jamais reconnu elle-même l'avoir réussi parce qu'elle n'a jamais pu reconnaître les colonisés comme des égaux. Et donc, je pense que la société française n'est pas sortie de cette difficulté. Aujourd'hui, il me semble que les tendances qui s'affirment au plan intellectuel, quand j'écoute, j'entends, je vais rester dans mon rôle d'historien.
C'est intéressant d'avoir le regard aussi porté depuis les Antilles sur ce qui peut se passer
en métropole.
Hein.
Oui, absolument. C'est-à-dire que nous avons quand même, il y a quand même beaucoup d'attitudes offensantes. Mmh. Mmh. je pense, offensante, blessante vis-à-vis des Antillais, vis-à-vis des colonisés. Je ne sais pas, mais on nous refuse le droit d'avoir une mémoire. C'est-à-dire qu'on nous refuse le droit, je ne sais pas, la notion de peuple martiniquais n'est pas compatible avec la Constitution française. C'est-à-dire qu'on nous refuse de... Voilà, nous ne sommes pas un peuple. Nous ne sommes pas un peuple parce qu'on considère que nous, voilà, si les Antillais, les Martiniquais se considèrent comme un peuple, ça remet en cause l'unité de la France. L'unité de la France ne semble possible qu'à condition que tout le monde renonce à ses identités, à sa culture pour se soumettre à une culture centralisatrice. Je pense que donc il y a un groupe, la France, je pense que la France a un problème à régler à ce niveau. Donc il y a, c'est sûr que les discours qui sont, les comportements qui sont adoptés vis-à-vis des manifestations de souffrance de la part des Antillais en France, c'est inacceptable. C'est inacceptable moralement pour les Antillais. Ça provoque une mise à distance. Ça provoque une mise à distance, oui.
Eh bien, on finira là pour ce soir, Richard Chateaugame. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation du Rhume du Son. Merci.
Oui, c'est moi qui vous remercie pour l'intérêt.
On se retrouve. Alors, le mois décolonial, du coup, continue à Grenoble. Il y a encore des événements, donc lundi, mardi et mercredi, des tables rondes, des projections, des écoutes de documentaires sonores. Donc, on vous invite à aller voir la programmation détaillée sur le site de l'association MixArt. Quant à nous, on se retrouvera au mois de septembre, on sera dans la Drôme sur le Festival des Rencontres Ad Hoc, un festival autour du documentaire. Et par ailleurs, on cherche du monde qui peuvent être intéressés et motivés pour nous rejoindre sur l'animation de l'émission et plus largement sur tous les projets qu'on peut mener, puisque donc on est une association qui s'appelle le Rhume du Son, pour le coup. Et on ne fait pas que de la radio, enfin on ne fait pas qu'une émission radio, on fait plein d'autres choses autour du son. Et donc on lance un petit appel à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Pour l'année prochaine, on cherche du monde, de l'énergie. Vous pouvez venir vous renseigner sur le site du Festival Écoute, où vous aurez nos contacts et toutes les infos nécessaires. Claire-Lie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Oui, vous pouvez aussi venir à l'apéro de rentrée qui sera le 4 septembre à 18h, mais on ne connaît pas encore le lieu, donc tenez-vous informés. Mais en tout cas, ce sera un bon moment pour se rencontrer et échanger sur ce qu'on fait, vos envies, etc. Voilà, on se quitte. Merci encore pour la technique à Thomas. Et puis pour avoir répondu à notre invitation, à Richard. Merci beaucoup.
Bon été.
Et bon été.
Merci à vous.